Décryptage. Anne Corpet.
L'administration américaine espérait lever hier un dispositif mis en place par Donald Trump qui, au nom de l'urgence sanitaire, permet d'expulser quiconque ne dispose pas de visa, même les demandeurs d'asile. Mais à quelques jours de l'échéance, un juge fédéral les en a empêchés. Les milliers de migrants massés à la frontière mexicaine restent donc dans l'impossibilité d'entrer aux États-Unis, même pour entamer des démarches en vue d'obtenir le statut de réfugié. La plupart tentent leur chance clandestinement au risque d'être aussitôt renvoyés et bien souvent, ils recommencent les jours suivants. Pourquoi ce dispositif appelé Titre 42 est-il controversé? Que se passe-t-il à la frontière depuis qu'il a été mis en place? La décision de ce juge peut-elle jouer un rôle dans la campagne en vue des élections de mi-mandat? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans Décryptage. Et pour évoquer les questions migratoires aux États-Unis, nous accueillons aujourd'hui en studio Laurence Nardon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes aussi l'autrice de New Deal, un podcast hebdomadaire passionnant consacré à l'actualité américaine. Merci d'être ici avec nous. Et tout d'abord, dites-nous, qu'est-ce que prévoit le titre 42, ce dispositif mis en place par Donald Trump en mars 2020 au nom de la lutte contre le Covid?
Alors, en fait, ce titre 42, il existe dans la loi américaine, il a juste été activé par Trump. C'est un dispositif qui permet de suspendre les règles habituelles qui régulent l'immigration et notamment les demandes d'asile pour les réfugiés au nom d'une urgence sanitaire. Et donc, ce qui peut se comprendre s'il y a une peste ou quelque chose. Bon, en l'occurrence, il y avait le Covid. Et donc, Trump a décidé, ça allait dans le sens de ce qu'il voulait faire de toute manière, de l'activer. Ça permet de renvoyer chez eux les gens qui passent la frontière illégalement, donc le long du Rio Grande, le long de la frontière avec le Mexique, de les renvoyer chez eux sans autre forme de procès. C'est vraiment le cas de le dire, parce qu'on ne retient pas leurs papiers, on n'étudie pas leur cas, on les renvoie chez eux tout simplement.
C'est ce qui explique qu'ils recommencent.
Oui,
parce que quand les lois sur l'immigration précédentes étaient encore en vigueur.
Exactement, parce que normalement, quand ce titre 42 n'est pas appliqué, on prend les empreintes, l'identité des personnes avant éventuellement de les renvoyer chez eux ou plutôt de les mettre dans un centre de rétention où on va étudier leur dossier, éventuellement les renvoyer après ou leur donner la chance de rentrer dans le système juridique qui permet d'immigrer légalement aux États-Unis.
Alors, pourquoi ce dispositif a-t-il été contesté dès le début par les démocrates?
Parce que les démocrates, et notamment l'aile gauche du Parti démocrate, sont très, dans le contexte politique actuel aux États-Unis, très favorables à l'immigration. Et donc, ils ne voulaient pas voir quelque chose qui venait freiner un flux qu'ils pensent être une bonne chose pour le pays.
Et puis, il y a aussi la question des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme s'attendaient à ce que le président Biden lève l'ordonnance dès qu'il est arrivé au pouvoir, parce qu'ils estiment que les États-Unis doivent recevoir les demandes d'asile.
Oui, absolument. Et en fait, Biden, il est un peu coincé entre une opposition républicaine qui, là aussi, à l'heure actuelle, est tout à fait contre l'immigration, ne veut vraiment pas du tout ouvrir les frontières, mais, et principalement les Trumpistes au sein du camp républicain. Mais il doit également faire face à l'aile gauche du parti, donc, dont on vient de parler, qui est extrêmement favorable à une ouverture, enfin même résolument et durement favorable à une ouverture radicale des frontières. Par exemple, vous voyez qui est Alexandria Ocasio-Cortez, cette élue démocrate de New York, qui est très à gauche. Pour elle, il faut ouvrir les frontières, il faut abolir la ICE, qui est
la police
des frontières.
Alors, quelle est la situation à la frontière sud des États-Unis depuis que ce titre 42 est en vigueur?
Alors, tout dépend du moment de l'année où l'on est. Et en ce moment, c'est le printemps. Et donc, dans le désert au sud du Texas, par exemple, ou au sud du Nouveau-Mexique, il fait pas trop chaud. Il fait plus trop froid, parce que c'est plus l'hiver. Il fait pas encore trop chaud, parce que c'est pas l'été. Et tous les ans, depuis que la crise migratoire bat son plein aux États-Unis, c'est-à-dire depuis le début des années 2010, le printemps est le moment où les candidats à l'immigration aux États-Unis tentent leur chance. Aujourd'hui, par exemple, je crois que les chiffres que j'ai, c'est qu'en avril, on a eu 234 000 personnes qui ont été arrêtées et renvoyées chez elles à la frontière sud des États-Unis. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, sur ces 234 000 personnes, c'est parfois les mêmes qui retentent leur chance quasiment tous les jours.
Donc les chiffres sont un peu faussés.
Les chiffres sont un petit peu faussés. De toute manière, sur ces personnes qui ont été appréhendées pour le mois d'avril, c'est peut-être, selon certaines estimations, 20% des personnes sont arrêtées et 80% des personnes réussissent à passer. Parce que la frontière est très très longue et il n'y a pas un contrôleur américain derrière chaque buisson.
Alors, on l'a dit, ce dispositif a été mis en place dans le cadre de la lutte contre le Covid. Qu'est-ce que disent les autorités sanitaires américaines aujourd'hui sur le risque sanitaire que représentent les migrants ?
Alors, en fait, tout le monde sait très bien que c'est un prétexte, la mise en œuvre du titre 42. Enfin, bon, c'est sûr qu'il y a eu une urgence sanitaire, mais aujourd'hui, on pourrait tout à fait la levée. La vie reprend à peu près aux États-Unis, même s'il y a eu beaucoup de victimes du Covid, ça c'est évident. Mais enfin, on sait bien que c'est un prétexte. De toute manière, rappelez-vous, Trump avait aussi mis en œuvre d'autres politiques extrêmement dures vis-à-vis des candidats à l'immigration, notamment avec la séparation des enfants et des parents lorsque des familles se présentaient à la frontière.
Politique sur laquelle il était revenu d'ailleurs.
Oui, il y avait eu un tel tollé qu'il était revenu là-dessus. Mais il paraît que certains enfants n'ont pas encore réussi à être réunis à leur famille.
Donc ce dispositif qui reposait sur le fondement d'une crise sanitaire n'est plus justifié. Comment le juge fédéral de Louisiane qui l'a reconduit a-t-il argumenté sa décision ?
Eh bien, Joe Biden avait annoncé qu'il lèverait l'application du titre 42 au 23 mai, c'est ce que vous avez dit dans votre introduction. Un certain nombre d'hommes politiques du sud du pays ont fait appel et le juge a décidé de laisser cette application en place en arguant du fait que la crise sanitaire n'était pas terminée, tout simplement.
Et les États républicains qui ont porté cette affaire devant la justice arguaient aussi de la crise sanitaire ?
Je ne sais pas de quoi eux arguaient, mais je pense que là aussi, c'était un prétexte pour des gens qui ne veulent pas voir un flux de migrants arriver dans leur État.
Pourtant, les États-Unis sont actuellement proches du plein emploi. Il y a un besoin de migrants, non ?
Oui, absolument. Il y a un besoin de migrants et notamment d'emplois peu rémunérés et peu qualifiés dans la restauration, pour la cueillette des fraises en Californie. Oui, les États-Unis sont quasiment proches du plein emploi et ils ont besoin de gens. Mais je pense que cet argument n'est pas recevable aujourd'hui aux États-Unis, en tout cas par la droite républicaine, parce qu'il est clair que cette question d'immigration est devenue aujourd'hui quelque chose qui n'est plus vraiment rationnel, mais très, très, très émotionnel, très identitaire pour les républicains, qui ne sont pas du tout prêts à se rendre à un argument économique. C'est-à-dire que l'argument économique ne joue plus. Vous avez d'un côté des gens qui refusent l'immigration, de l'autre, alors si on va à l'extrême gauche, des gens qui veulent une immigration sans aucune condition, et il n'y a plus vraiment de sens, il n'y a plus vraiment de rationalité dans ce débat aujourd'hui. Donc l'argument excellent que vous présentez avec cette histoire de plein emploi et de besoin de main-d'œuvre n'est pas audible aujourd'hui aux États-Unis dans le débat politique.
Et les employeurs, les agriculteurs, les restaurateurs, eux, ne font pas entendre leur voix, qui cherchent désespérément de la main-d'œuvre ?
Non, curieusement, on ne les entend pas sur ce point-là.
Alors, l'agitation autour du titre 42 montre aussi que les Républicains, finalement, s'appuient sur un outil de santé publique pour gérer la situation à la frontière. Est-ce que ce n'est pas une forme de dysfonctionnement du système d'immigration américain ?
Alors, oui, le système d'immigration américain est assez dysfonctionnel, comme vous dites, puisqu'il y a aujourd'hui 11 à 12 millions d'illégaux aux États-Unis, des gens qui sont souvent là depuis des années et des années, qui payent leurs impôts d'ailleurs. C'est juste que le système fiscal étant déconnecté du système de papier d'identité, si vous voulez. La dernière loi de régularisation des illégaux date de 1986 sous Reagan. Parce que dans les années 80, on était encore dans un système qui fonctionnait à peu près. Parce que ce que vous pointez, ce n'est pas tant le système d'immigration qui dysfonctionne, c'est plus grave, c'est le Congrès qui dysfonctionne, puisque aujourd'hui, il y a une telle polarisation politique dans le pays que le Congrès n'arrive plus à faire adopter des lois. On parle de l'immigration, mais c'est vrai aussi sur d'autres sujets. Et l'administration Biden en fait les frais tous les jours.
Et ça, c'est l'héritage de Donald Trump ?
Non, c'est l'héritage d'un processus de polarisation qui date peut-être des années 90, avec la transformation, par exemple, du paysage audiovisuel, mais c'était trop limité. Le paysage médiatique dans le pays a commencé à bouger dans les années 90 avec l'apparition des radios qui permettent de faire des émissions extrêmement longues et très conservatrices. C'est ce qu'on appelle les conservative radio shows, avec des gens qui vont parler toute une après-midi de choses très conservatrices. Il y a eu ensuite l'apparition de Fox News, la chaîne de télé, dans les années 2000. Ensuite, il y a eu l'Internet qui a permis d'avoir des blogs et des plateformes de plus en plus radicales dans le pays. Et tout ceci a modifié, si vous voulez, la manière de fonctionner du système politique américain. J'ajoute encore l'histoire du financement de la vie politique, qui est de plus en plus, là aussi, dysfonctionnelle. Enfin, là, on s'éloigne du sujet de l'immigration, si vous voulez, mais je vous peins le tableau d'une Amérique dont le système politique est aujourd'hui tellement polarisé que les gens n'arrivent plus à s'entendre pour passer une loi sur quoi que ce soit.
Et là, la perception de l'immigration a changé aux États-Unis, parce qu'on nous a longtemps vanté le melting pot, cette société multiculturelle. Ce n'est plus le cas.
Alors ça, il faut dire quelque chose qu'on ignore souvent, c'est que les États-Unis ont été un pays fermé à l'immigration entre les années 1920 et les années 1960. Dans les années 1920, pour vous le faire très court, les syndicats, qui étaient donc à gauche, mais aussi le Ku Klux Klan, qui était à droite, se sont mis d'accord pour faire fermer les frontières du pays. Les syndicats, c'était parce que l'immigration fait baisser les salaires. Puis le Ku Klux Klan, c'était évidemment pour des raisons identitaires d'extrême droite, racistes, tout à fait. Le pays a rouvert en 1965 sous le président Johnson. En 65, moins de 5% des États-Unis étaient nés à l'étranger. C'était le plus bas depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, on est à quasiment 15% d'Américains nés à l'étranger, le chiffre le plus haut depuis le 19e siècle. Et donc, ce pays multiculturel, en fait, c'était vrai au 19e siècle, c'est vrai depuis les années 60. Bref, aujourd'hui, l'opinion publique américaine, elle est toujours à 65% favorable à l'immigration. 65%, ça veut dire que le reste ne l'est pas. Mais ce qui est plus intéressant, ce qui est tout aussi intéressant, pardon, c'est de dire que les démocrates aujourd'hui sont quasiment tous favorables à l'immigration, alors que les syndicats dans le temps ne l'étaient pas, qui étaient pourtant à gauche. Et alors que pendant ce temps-là, aujourd'hui, les républicains sont quasiment tous défavorables à l'immigration, ce qui là aussi n'était pas vrai avant les années 60, puisque vous aviez ce qu'on appelle les business républicains, c'est-à-dire les républicains qui font du business, qui sont patrons de boîtes, et qui étaient, eux, très favorables à l'immigration de travail, parce que ça pèse sur les salaires, ça leur permet d'avoir une main-d'œuvre plus facile à rémunérer.
Alors, pour revenir à aujourd'hui, vous avez souligné l'incapacité du Congrès à légiférer, notamment sur cette question de l'immigration. Mais alors, du coup, ce sont les juges qui décident de ce qui se passe, des règlements. Et là, en l'occurrence, on parle d'un juge fédéral nommé par Donald Trump.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Du fait de l'incapacité du Congrès à voter des lois à cause de la polarisation, c'est bien souvent le judiciaire qui, finalement, par un arrêt, par une jurisprudence, va faire le droit, et je dirais même si c'est faux d'un point de vue constitutionnel, va faire la loi dans le pays. C'est vrai, par exemple, sur l'avortement, mais c'est vrai donc sur l'immigration. Et là, ce qui est très préoccupant, c'est que Trump et les républicains, depuis plus longtemps que Trump, ont mené une politique extrêmement rusée de droitisation du système judiciaire. C'est-à-dire que depuis les années 80, ils se sont mis à essayer de former et nommer des juges qui sont de plus en plus conservateurs.
Via la Federal
Society. C'est la Federalist Society. Exactement, créée en 82 ou 83, qui s'est occupée de former ses juges. Et on les voit aujourd'hui rentrer à tous les étages de la pyramide judiciaire américaine, qui est une pyramide judiciaire à la fois dans les États, mais aussi au niveau national, et tous, qui aboutissent tous à la Cour suprême, qui a aujourd'hui une majorité de juges conservateurs, 6 sur 9.
Alors, cette décision du juge fédéral de Louisiane sur le titre 42 est tombée en pleine campagne des midterms. On a d'ailleurs aujourd'hui des primaires dans plusieurs États. Même si ça constitue une victoire pour les Républicains, est-ce que ça n'arrange pas d'une certaine manière l'administration Biden ?
Eh bien oui, c'est ça qui est intéressant. Il va falloir le suivre dans les mois qui viennent. En réalité, ce juge, en remettant en route le titre 42, va faire que la police des frontières va pouvoir continuer à renvoyer chez eux très facilement les candidats à l'immigration. Ce qui fait que on ne va pas voir d'arrivée en masse qui pourrait, vous avez raison, poser un problème politique aux démocrates et à Joe Biden.
Parce que ça reste un sujet très électrique aux États-Unis.
Ben oui, c'est un petit peu comme chez nous, si vous voulez. Les arrivées d'immigrants sont parfois... causent parfois des problèmes politiques au pouvoir en place, parce que les gens s'inquiètent du nombre de personnes qu'il va falloir mettre dans les écoles, du nombre de personnes qu'il va falloir loger. Enfin, ça inquiète les populations. Et donc, il y a une traduction politique qui n'est pas forcément positive pour un parti démocrate en place. Et donc, de fait, ça va peut-être résoudre... Ça va peut-être empêcher que ça devienne un problème politique majeur pour le président, qui a déjà pas mal de choses à gérer.
Et alors, est-ce que cette décision est durable parce que l'administration a dit qu'elle allait faire appel ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, l'administration a dit qu'elle ferait appel, mais on est déjà au mois de mai-juin. Il va y avoir l'été. Il est peu probable que cet appel soit traité avant les élections de mi-mandat qui ont lieu début novembre. Donc, ce sera sans doute après et probablement que ça montera jusqu'à la Cour suprême.
Et l'immigration, ça reste donc un sujet majeur sur le terrain politique américain, même si, de facto, depuis mars 2020, il y a peu d'entrées légales, en tout cas aux États-Unis.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que sous Trump et pendant le Covid, les entrées avaient baissé, mais finalement, elles ont repris en 2019 et puis ensuite en 2021 et aujourd'hui 2022, ce qui montre bien que les candidats à l'immigration qui viennent du Honduras, du Salvador et d'Ukraine aussi, ils passent par le Mexique aujourd'hui, il y en a un certain nombre.
Et alors, pardon, mais les Ukrainiens aussi n'ont pas le droit d'entrer aux États-Unis pour demander l'asile ? Du fait du titre 42 ?
Mais non, puisqu'ils ne peuvent pas déposer leur demande d'asile ou leur demande de réfugiés parce qu'on les renvoie chez eux comme ça. Donc, ceci dit, maintenant que je vous ai dit ça, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a les immigrés qui sont acceptés par le Mexique en retour et les immigrés qui ne le sont pas, suivant leur nationalité. Les Mexicains reprennent les Mexicains, évidemment. Ils reprennent aussi ceux qui viennent d'Amérique centrale, Honduras, Venezuela, Guatemala. Mais parfois, ils refusent de reprendre des gens qui viennent d'autres pays avec lesquels ils n'ont pas un accord d'extradition. Et donc, il n'est pas impossible que les Ukrainiens soient finalement acceptés aux États-Unis parce qu'on ne peut pas les renvoyer au Mexique.
Du coup, finalement, ce titre 42, augmente l'immigration clandestine ?
Celle qui est venue de certains pays, parce que les gens, les dossiers ne peuvent pas être instruits et le Mexique ne veut pas les reprendre non plus. Il est aussi possible de les mettre dans un avion à destination d'un pays plus lointain, ça c'est autre chose aussi.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, Laurence Nardon. Je rappelle que vous êtes responsable du programme États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Je rappelle aussi le titre de votre podcast, New Deal. On peut l'entendre chaque semaine sur toutes les plateformes. Merci à Hélène Avril qui a réalisé cette émission et à Sigrid Azerwal qui m'a aidée à la préparer. À demain.
Priorité santé. Caroline.